Chapitre 43. Un duel dans un fiacre. Peyrade jeta son coup d'œil d'espion sur le magistrat que lui détachait le préfet de police. Carlos lui présenta des lignes satisfaisantes. Un crâne pelé, sillonné de rides à l'arrière, des cheveux poudrés, puis sur des yeux tendres bordés de rouge et qui voulaient des soins, une paire de lunettes d'or très légères, très bureaucratiques, à verres verts et doubles. Ses yeux offraient des certificats de maladies ignobles. Une chemise en percale à jabot plissé dormant, un gilet de satin noir usé, un pantalon d'homme de justice, des bas de filoselle noirs et des souliers noués par des rubans, une longue redingote noire, des gants à 40 sous, noirs et portés depuis 10 jours, une chaîne de montre en or. C'était, ni plus ni moins, le magistrat inférieur, appelé très antinomiquement « officier de paix ». Mon cher monsieur Peyrade, je regrette qu'un homme comme vous soit l'objet d'une surveillance et que vous preniez à tâche de la justifier. Votre déguisement n'est pas du goût de monsieur le préfet. Si vous croyez échapper ainsi à notre vigilance, vous êtes dans l'erreur. Vous avez sans doute pris la route d'Angleterre à Beaumont-sur-Oise.
À Beaumont-sur-Oise, répondit Peyrade.
Ou à Saint-Denis, reprit l'abbé. Peyrade se troubla. Cette nouvelle demande exigeait une réponse. Or, toute réponse était dangereuse. Une affirmation devenait une moquerie, une négation, si l'homme savait la vérité, perdait Peyrade. « Il est fin, pensa-t-il. » Il essaya de regarder l'officier de paix en souriant et lui donna son sourire pour une réponse. Le sourire fut accepté sans protêt. « Dans quel but vous êtes-vous déguisé ? Avez-vous pris un appartement à l'hôtel Mirabeau et mis Contenson en mulâtre ? » demanda le faux magistrat. « Monsieur le préfet fera de moi ce qu'il voudra, mais je ne dois compte de mes actions qu'à mes chefs, » dit Peyrade avec dignité. « Si vous voulez me donner à entendre que vous agissez pour le compte de la police générale du royaume, » dit sèchement Carlos, « nous allons changer de direction et aller rue de Grenelle au lieu d'aller rue de Jérusalem. » J'ai les ordres les plus positifs à votre égard. Mais prenez bien garde, on ne vous en veut pas énormément et, en un moment, vous brouilleriez vos cartes. Quant à moi, je ne vous veux pas de mal. Mais marchons, dites-moi la vérité. » La vérité, la voici, dit Peyrade en jetant un regard fin sur les yeux rouges de son cerbère. La figure de Carlos resta muette, impassible, l'officier de paix faisait son métier. Toute vérité lui paraissait indifférente, il avait l'air de taxer le préfet de quelques caprices. Les préfets ont des lubies. « Je suis devenu amoureux comme un fou d'une femme, la maîtresse de cet agent de change qui voyage pour son plaisir et pour le déplaisir de ses créanciers, Falex. »«
Madame du Val-Noble ? » dit l'officier.
« Oui, reprit Peyrade, pour pouvoir l'entretenir pendant un mois, ce qui ne me coûtera guère plus de 1000 écus, « je me suis mise en nabab et j'ai pris Contenson pour domestique. Cela, monsieur, est si vrai que, si vous voulez me laisser dans le fiacre, où je vous attendrai, foi d'ancien commissaire général de police, montez à l'hôtel, vous y questionnerez Contenson. Non seulement Contenson vous confirmera ce que j'ai l'honneur de vous dire, mais vous verrez venir la femme de chambre de madame du Val-Noble, qui doit nous apporter ce matin le consentement à mes propositions, ou les conditions de sa maîtresse. Un vieux singe se connaît en grimace. J'ai offert 1000 francs par mois, une voiture, cela fait 1500. 500 francs de cadeaux, puis autant en quelques parties, des dîners, des spectacles. Vous voyez que je ne me trompe pas d'un centime en vous disant 1000 écus. Un homme de mon âge peut bien mettre 1000 écus à sa dernière fantaisie.
Ah, papa Peyrade, vous aimez encore assez les femmes pour...
Mais vous m'attrapez, moi j'ai 60 ans et je m'en prive très bien. Si cependant les choses sont comme vous les dites, je conçois que, pour passer cette fantaisie, il vous a fallu vous donner la tournure d'un étranger. Vous comprenez que Peyrade ou le père Canqual de la rue des Moineaux...
Oui, ni l'un ni l'autre n'eût convenu à madame du Val-Noble, reprit Carlos, enchanté d'apprendre l'adresse du père Canqual.
« J'ai connu jadis une femme, dit le faux magistrat, qui était entretenue par l'exécuteur des hautes œuvres. Un jour, au spectacle, elle se pique avec une épingle,
Et comme cela se disait avant la Révolution, elle s'écrie « Ah, bourreau !» « Est-ce une réminiscence ?» lui dit quelqu'un. « Eh bien, mon cher Peyrade, elle a quitté son amant à cause de ce mot. Je conçois que vous ne voulez pas vous exposer à une semblable avanie. Madame du Val-Noble est femme à Jean comme il faut. Je l'ai vue un jour à l'opéra, je l'ai trouvée bien belle. Faites revenir le cocher rue de la Paix, mon cher Peyrade. Je vais monter avec vous dans votre appartement et voir les choses par moi-même. Un rapport verbal suffira sans doute à monsieur le préfet. » Carlos sortit de sa poche de côté une tabatière en carton noir doublé de vermeil. Il l'ouvrit et offrit du tabac à Peyrade par un geste d'une bonhomie adorable. Peyrade se dit en lui-même « Et voilà leurs agents. Mon Dieu, si monsieur Lenoir ou monsieur de Sartine revenaient au monde, que dirait-il » C'est là sans doute une partie de la vérité, mais ce n'est pas tout, mon cher ami, dit le faux officier de paix en achevant de humer sa prise par le nez. Vous vous êtes mêlé des affaires de cœur du baron de Nucingen et vous voulez sans doute l'entortiller dans quelque nœud coulant. Vous l'avez manqué au pistolet, vous voulez le viser avec du gros canon. Madame de Val-Noble est une amie de Madame de Champy. Ah, diable, ne nous en ferons pas, se dit Peyrade. Il est plus fort que je ne le croyais. Il me joue. Il parle de me faire relâcher et il continue de me faire causer. Eh bien, dit Carlos d'un air d'autorité magistrale. Monsieur, il est vrai que j'ai eu le tort de chercher pour le compte de monsieur de Nucingen une femme dont il était amoureux à en perdre la tête. C'est la cause de la disgrâce dans laquelle je suis, car il paraît que j'ai touché, sans le savoir, à des intérêts très graves. » Le magistrat subalterne fut impassible. « Mais je connais assez la police après 52 ans d'exercice, reprit Peyrade, pour m'être abstenu depuis la mercuriale que m'a donnée monsieur le préfet, qui certainement avait raison. Vous renonceriez alors à votre caprice si monsieur le préfet vous le demandait? Ce serait, je crois, la meilleure preuve à donner de la sincérité de ce que vous me dites. » « comme il va !» se disait Peyrade. « Ah, sacre bleu! Les agents d'aujourd'hui valent ceux de monsieur Lenoir. » « Y renoncer, dit Peyrade, j'attendrai les ordres de monsieur le préfet. Mais si vous voulez monter, nous voici à l'hôtel. » « Où trouvez-vous donc des fonds ? » lui demanda Carlos d'un air sagace et à brûle-pourpoint. « Monsieur, j'ai un ami, dit Peyrade. « Allez donc dire cela, reprit Carlos, à un juge d'instruction. » Cette audacieuse scène était chez Carlos le résultat d'une de ces combinaisons dont la simplicité ne pouvait sortir que de la tête d'un homme de sa trempe. Il avait envoyé Lucien de très bonne heure chez la comtesse de Sérisy. Lucien pria le secrétaire particulier du comte d'aller, de la part du comte, demander au préfet des renseignements sur l'agent employé par le baron de Nucingen. Le secrétaire était revenu, muni d'une note sur Peyrade, la copie du sommaire écrit sur le dossier. Dans la police, depuis 1778, est venu d'Avignon à Paris 2 ans auparavant. Sans fortune et sans moralité, dépositaire de secrets d'État. Domicilié rue des Moineaux, sous le nom de Canquel, nom du petit bien sur lequel vit sa famille, dans le département de Vaucluse, famille honorable d'ailleurs. A été demandé récemment par un de ses petits-neveux, nommé Théodose de la Peyrade. Voir le rapport d'un agent, numéro 37 des pièces. C'est lui qui doit être l'anglais à qui Contenson sert de mulâtre, s'était écrié Carlos quand Lucien lui rapporta les renseignements donnés de vive voix, outre la note. En 3 heures de temps, cet homme, d'une activité de général en chef, avait trouvé par Paccard un innocent complice capable de jouer le rôle d'un gendarme bourgeois et s'était déguisé en officier de paix. Il avait hésité 3 fois à tuer Peyrade dans le fiacre, mais il s'était interdit de jamais commettre un assassinat par lui-même. Il se promit de se défaire à temps de Peyrade en le faisant signaler comme un millionnaire à quelques forçats libérés. Peyrade et son mentor entendirent la voix de Contenson qui causait avec la femme de chambre de Madame du Val-Noble. Peyrade fit alors signe à Carlos de rester dans la première pièce en ayant l'air de lui dire ainsi « Vous allez juger de ma sincérité. » « Madame consent à tout, » disait Adèle. « Madame est en ce moment chez une de ses amies, Madame de Champy, qui a pour un an encore un appartement tout meublé rue Taitbout et qui le lui donnera sans doute. Madame sera mieux là pour recevoir M. Johnson, car les meubles sont encore très bien et monsieur pourra les acheter à madame en s'entendant avec madame de Champy.
Bon, mon enfant, si ce n'est pas une carotte, c'en est le feuillage, dit le mulâtre à la fille stupéfaite. Mais nous partagerons.
Eh bien, en voilà un homme de couleur, s'écria mademoiselle Adèle. Si votre nabab est un nabab, il peut bien donner des meubles à madame. Le bail fini en avril 1830, votre nabab pourra le renouveler s'il se trouve bien.
Moi, très contente, répondit Peyrade, qui fit son entrée en frappant sur l'épaule de la femme de chambre. Et il fit un geste d'intelligence à Carlos, qui répondit par un geste d'assentiment, en comprenant que le nabab devait rester dans son rôle. Mais la scène changea subitement par l'entrée d'un personnage sur qui Carlos ni le préfet de police ne pouvaient rien. Corentin se montra soudain. Il avait trouvé la porte ouverte, il venait voir en passant comment son vieux Peyrade jouait son rôle de nabab.